Donc, Évangile selon Marc, le chapitre 9. Et nous regarderons ce matin les versets 2 à 13. Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux, tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes, disent-ils, qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. » Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » C'est la parole de Dieu. Alors en fait, ce matin, c'est le premier de 2 messages. Alors, soit vous reviendrez, soit ben, vous écouterez, n'est-ce pas? Mais en fait, il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai été poussé à attirer vers un verset en particulier qui n'est pas dans ce passage, mais dans le suivant. Et ça m'a permis de commencer à réfléchir. Et puis voilà, c'est 2 messages. Alors ici, nous voyons ce matin l'échec de l'homme, l'échec de l'être humain. Et on le voit sur la montagne. Et puis, la prochaine fois, on verra ça, même l'échec de l'homme, mais dans la vallée, à ce moment-là. Donc, comme ça permet de se rappeler un petit peu le message. Et c'est le fait que l'homme n'arrive pas à comprendre l'œuvre de Dieu par lui-même. Impossible. Il n'arrive pas à comprendre l'œuvre de Dieu, et pire encore, il n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu. Et le salut, bien entendu, c'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui, parfois très sincèrement, mais dans l'erreur, pensent qu'ils ont une partie à jouer dans le salut. Et des fois, ça paraît un peu comme ça. Quelqu'un me disait, il y a encore peu de temps, mais je me suis décidé pour Christ. Et cela était certainement vrai, il avait pris une décision. Quelqu'un qui était vraiment croyant. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris sa décision avant? Même quelques minutes avant. Bien tout simplement parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Donc, le pouvoir de prendre la décision vient du dehors. Et on est de nouveau avec l'œuvre de Dieu. Et cela nous montre donc le fait double que le salut opéré par Dieu est une victoire totale. Et que l'homme n'y contribue en rien. Alors bien sûr, ces 2 choses-là sont liées. Ça ne peut pas être une victoire totale si l'homme y contribue. Vous connaissez suffisamment pour savoir que si vous commencez à mettre la main dans votre salut, ça va marcher comme les choses qu'on voit aujourd'hui. Quelque chose ne va pas aller. Et ça ne peut pas être une victoire totale. Donc, si le salut vient de Dieu, et le salut vient de Dieu seul, eh bien, c'est une victoire totale. Sinon, il n'est pas Dieu. Alors, ça ne vaut pas la peine de continuer. Alors, la question, c'est pourquoi passer du temps à étudier cela? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit un échec généralisé parmi les hommes, même dans les milieux desquels on pourrait attendre mieux, à voir leur propre incapacité. Et même nous, on peut être tenté assez régulièrement à ne pas voir la réalité de cette incapacité totale. Alors, certains vont objecter en disant, mais bon, oui, parmi les milieux religieux, on peut voir que c'est tout à fait le cas. On enseigne un message qui est centré sur l'homme, donc on ne voit pas l'incapacité. Mais dans certains milieux, et on peut se placer là, on croit dans la grâce souveraine de Dieu. C'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu seul qui sauve. Mais cela, c'est souvent quelque chose qui n'a pas une prise directe avec notre vie. Et c'est pour cela que j'ose venir à un message comme celui-ci. Comment est-ce qu'on peut dire cela? Eh bien, tout simplement parce que, bien souvent, nous faillissons en n'utilisant pas la seule arme qui vraiment nous montre qu'on dépend totalement de Dieu. On le verra à la fin du prochain message. Donc, gardez l'attention. Mais c'est cela, on n'utilise pas la seule arme qui soit à notre disposition et qui glorifie le Seigneur. Et c'est ce qu'on verra. Celui qui est convaincu que le salut s'accomplit par la seule grâce de Dieu en Christ, n'est-il pas dans une meilleure position? Eh bien oui et non. Sa pensée est effectivement plus en phase avec le témoignage de Dieu dans l'Écriture. Il pense comme Dieu le révèle. Le salut est l'œuvre de Dieu seul et n'a besoin d'aucun apport de la part de l'homme. Et ça, il faut le répéter. Dieu accomplit seul en Christ ce qu'il a déterminé de toute éternité. C'est pour ça que ces doctrines qui font peur aux hommes religieux sont des belles vérités et on ne peut pas les taire. Mais il est possible que cette connaissance reste stérile, c'est-à-dire qu'elle ne produise pas un impact sur ma vie et dans ma vie. Il est possible d'adhérer à un système qui est juste par ailleurs, mais sans que nous soyons touchés et sans vraiment marcher dans la puissance de la nouveauté de vie. C'est tout à fait possible. Et si vous vous connaissez tant soit peu, vous savez que ça arrive plus souvent qu'on voudrait. Il est possible de croire dans la grâce, de croire farouchement dans la grâce souveraine, sans vivre pleinement une union avec le Seigneur de grâce. Si nous sommes sauvés par la grâce, rappelons-nous une chose, c'est que la grâce n'est pas un sauveur. Ça n'est pas le sauveur. On est sauvé par grâce. C'est un moyen, c'est un mode opératoire, c'est ce que Dieu a fait. Et c'est la raison pour laquelle je veux venir à ce passage et ces vérités que nous voyons ici. Alors, premier point, la scène. Alors, pas la Sainte-Seine, la scène. Voyons un peu ce qui se passe. Quelle est la scène qui est campée dans ce passage? C'est une scène assez simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires. Environ une semaine après la merveilleuse confession de Pierre, vous connaissez, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus prend ses trois disciples les plus intimes et il les emmène avec lui sur une haute montagne, dans le nord probablement d'Israël. Et Luc ajoute que Jésus est monté sur la montagne pour prier. Une fois au sommet, et Luc ajoute, pendant qu'il priait, Jésus est transfiguré. Il est métamorphosé, c'est le mot qui est utilisé dans l'original. Son aspect irradie d'une très grande lumière. Et les trois récits dans les évangiles synoptiques mentionnent que même son vêtement brille d'un éclat qui n'appartient pas à ce monde. C'est en quelque sorte la gloire qui est fait irruption dans ce monde. Devant un tel spectacle, les trois disciples sont remplis de crainte et remplis de torpeur. Ils sont sans force. Alors, deux hommes leur apparaissent et le texte identifie ces deux hommes. L'un est Moïse et l'autre Élie. Et Luc précise que ces deux hommes conversent avec Jésus au sujet de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et bien sûr, on comprend tout de suite de quoi ça parle. Le texte utilise ici non pas le mot départ, mais le mot exode. Et en fait, les évangélistes veulent nous montrer que c'est quelque chose qui a son image dans l'Ancien Testament avec l'Exode. Pierre, toujours prêt à parler, Pierre c'est l'homme, il propose de dresser trois abris pour chacun, un abri pour chacun des personnages. Mais les trois évangélistes synoptiques précisent qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre est toujours quelqu'un de très encourageant pour moi. Et à ce moment-là, une nuée étincelante, qui est souvent le symbole de la présence de Dieu, une nuée étincelante vient recouvrir toute la scène et voiler la scène. C'est un peu genre de brouillard. Et les disciples, soudain, ne voient plus que Jésus seul avec eux. Alors que la nuée les enveloppe, ils entendent une voix qui est identifiée à la voix du Père, et cette voix rend témoignage à Jésus comme étant le Messie promis. Et puis, les quatre hommes redescendent de la montagne pour rejoindre les autres disciples dans la vallée. Voilà, ça c'est la scène, c'est simple. Il n'y a pas de choses vraiment difficiles à comprendre. Donc on va passer à un deuxième point que j'intitule « métamorphoser ». Le mot « métamorphoser ». C'est en fait le mot qui est traduit dans nos versions par « transfigurer ». Transfigurer. Et cela signifie « changer de forme ». Pas besoin d'aller dans l'étymologie du mot, vous le savez. On sait, par exemple, on sait tous ce qui se passe dans la vie du papillon. Il commence sa vie comme une chenille, occupé à ramper, à grignoter, incapable de voler. Mais intervient sa métamorphose, au terme de laquelle il devient un papillon. La forme est complètement différente, métamorphosée. C'est impossible de reconnaître dans le papillon la chenille qu'il a été. Absolument impossible. Mais la créature est la même. En fait, l'être est la même. La même, mais nouveau. Et nous retrouvons le même terme, par exemple, en Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne prenez pas la même forme que le siècle présent, mais soyez métamorphosés, transformés, transfigurer, changer de forme. Vous voyez comme c'est quelque chose de très pratique, en fait, très concret. Le chrétien est une nouvelle création, c'est un nouveau monde, mais il est toujours monsieur un tel. Il n'a pas besoin de changer sa carte d'identité, par exemple, en raison de sa conversion. Donc, il est métamorphosé. Cela nous enseigne une grande leçon à laquelle la plupart d'entre nous disons croire. Mais est-ce qu'elle modèle vraiment notre pensée? C'est la question que la parole nous pose. C'est le fait que le Seigneur Jésus, alors qu'il arpentait les routes de la Palestine, était tout autant Dieu que quand il créait les galaxies. C'est exactement le même être. Quand il crée les galaxies par la puissance de sa parole, il est le même. Il est tout autant Dieu que quand il est fatigué. Ici, sur la montagne, l'éclat de sa personne brille de manière quasi insoutenable. Les disciples ne peuvent pas, vraiment, ils sont dans une torpeur. Là, à l'arrière de la barque, le sommeil l'écrase, il dort profondément, même au milieu de la tempête. Mais il n'en est pas moins le Fils de Dieu. Comme le reconnaît un peu après, la légion qui affligeait le possédé gadarénien, n'est-ce pas? Les disciples se disent, mais quel est cet homme? Et le chapitre suivant, on a là la légion qui s'appelle Jésus, fils de Dieu. Voilà, il est le fils de Dieu. Preuve en est que Jésus est réveillé par les disciples et tout de suite, il est là. Il commande au vent, on vague. À tel point que les disciples se demandent, et c'est très intéressant quand ils disent, mais quel est cet homme? En fait, l'expression qu'ils utilisent, c'est de quel pays est-ce qu'il vient? Il n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici, non, il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Lui, qui était écrasé de sommeil il y a quelques instants. Et c'est là une vérité merveilleuse que Dieu lui-même est venu accomplir le salut de son peuple. Ce salut peut-il échouer? Ce n'est pas possible. Absolument pas possible. Il est toujours le même, le Seigneur de gloire, resplendissant de lumière sur la montagne, accablé de fatigue au bord d'un puits en Samarie. Si bien qu'il ne peut même pas aller acheter la nourriture dans la ville. De toujours, il existe en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, métamorphosé. Il n'a pas reculé, mais au contraire, il s'est soumis à la volonté de son Père, bien qu'il soit égal à son Père. Et c'est le privilège du croyant. Il n'est plus sous la condamnation de la loi. Le voile a été ôté et l'œuvre de l'Esprit de Christ en lui effectue une transformation, une métamorphose en la même image que son Sauveur. C'est ce que Paul explique en 2 Corinthiens chapitre 3 par exemple. C'est pourquoi Paul peut exhorter les croyants de Rome après tous ces développements et tout ça. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés, soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu et pour s'y soumettre comme Jésus lui-même l'a fait. Donc, métamorphosé, c'est vraiment ce qui se passe sur la montagne là. En fait, il est toujours le Fils de Dieu. Il est le même, mais sa forme est différente. Troisièmement, regardons ce que le Père dit. Écoutez-le. C'est plutôt l'ordre de Dieu depuis la voix qui est dans la nuée. Comme on l'a vu, la nuée vient recouvrir toute la scène et du milieu de cette nuée retentit la voix de Dieu. Et les mots importants de cette parole sont à la fin, tout au moins pour ce qu'on veut voir ce matin. Et nous voulons nous y arrêter parce qu'il y a plus que ce qui paraît à la surface. Ce n'est pas simplement « écoutez-le ». C'est beaucoup plus profond que cela. À simplement regarder, sans creuser comme ça, surtout que nous sommes dans une culture différente, on pourrait penser que c'est simplement une exhortation à écouter Jésus et à faire ce qu'il demande. C'est déjà pas mal. Mais en fait, ça peut rester au niveau d'un simple moralisme religieux. Voilà, on va faire ce que Jésus a fait, c'est le modèle. Mais cet ordre, écoutez-le, aurait rappelé à un juif un passage en particulier de l'Écriture. En Deutéronome, chapitre 18, versets 15 et suivants, nous avons Moïse, qui est un vieil homme. Deutéronome 18. Voilà. Moïse est un vieil homme et il s'apprête à quitter la scène de l'histoire. Et il répète la loi à l'ouïe de toutes les tribus d'Israël et toutes les prescriptions que l'Éternel a données à Israël pendant sa traversée du désert. Regardez, chapitre 18, Deutéronome 18, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi, l'Éternel répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en redemanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ce passage parle d'un autre prophète qui est comme Moïse. Mais bien entendu, quand l'Éternel parle au futur, et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'explication d'Hébreu, c'est quelque chose de meilleur, c'est-à-dire quelque chose qui remplace et qui est la perfection à la place de l'image. Nous savons combien Moïse était fondamental pour les Juifs, mais ultimement, Moïse avait failli. Et il n'a pas pu faire entrer le peuple dans le repos promis. Il fallait un autre. Moïse a dû rester de ce côté-ci. Or, Dieu annonce un autre prophète. Et on voit tout de suite qu'il y a ici une promesse qui surpasse Moïse. Ce prophète-là va faire quelque chose que Moïse n'a pas pu faire. Alors, d'un certain côté, ici, c'est l'institution du ministère prophétique qu'on voit dans tout l'Ancien Testament, mais il y a plus que cela. Plus que cela. Vous avez écouté Moïse, c'est-à-dire la loi, mais il n'a pas pu vous amener au repos. La loi ne peut pas donner le repos. Absolument impossible. Cet autre prophète le pourra. Et en conséquence, c'est lui que vous devez écouter. C'est donc l'annonce d'une autre alliance, d'une alliance qui est nouvelle et qui est meilleure, comme on a vu dans nos lectures ce matin. Mais dans ses propos, Moïse fait allusion à un incident de l'histoire d'Israël. Il a parlé que voilà ce qui s'est passé. Dieu s'apprêtait à donner la loi au peuple et il s'est adressé directement du milieu des éclairs et du tonnerre. Et vous vous rappelez la scène, ils sont devant le Sinaï, des gens qui viennent d'Égypte, pour la plupart, ils n'ont jamais vu une montagne. Rappelons-nous cela. Et ils sont face au Sinaï, qui est quelque chose d'assez impressionnant. Et en plus, il y a le tonnerre, il y a les éclairs, et ils entendent la voix de Dieu. Donc, tous sont très effrayés, y compris Moïse. Moïse dit qu'il tremblait. Le peuple s'approche de Moïse alors pour lui demander d'être un médiateur entre ce Dieu si terrible et eux si conscients de leur péché, parce que la loi découvre le péché en montrant la perfection de Dieu. Si Moïse pouvait faire l'intermédiaire, il ne pouvait rien faire de plus. Il était simplement le porte-parole. D'ailleurs, très rapidement, les Israélites eux-mêmes se sont rebellés contre ses paroles. Et ça, c'est toute l'histoire de la traversée du désert. Moïse était, et là nous revenons à Hébreu, un administrateur fidèle dans la maison de Dieu. Mais il était serviteur, c'est-à-dire qu'il servait Dieu. Il faut quelque chose de plus pour demeurer dans la maison. Le serviteur ne demeure pas dans la maison. Il faut cet autre prophète qu'on puisse écouter. Et donc, du milieu de la nuée, là, sur la montagne de la Transfiguration, comme on a appelé, le Père est en train de dire, « Celui-ci n'est pas mon serviteur, il est fils, il est fils. Il donne le droit d'entrée, il est médiateur, le vrai médiateur. Écoutez-le, écoutez-le. » Et c'est ce qu'il dit qui a la puissance, pas Moïse. Moïse que retransmettaient les scribes et les pharisiens de leur époque, les chefs religieux, c'était simplement le rappel des péchés continuels et la démonstration de l'incapacité. On se rappelle de Paul, Saul de Tarse qui, autant qu'il puisse voir, était irréprochable selon la loi, mais jamais, jamais il ne pouvait arriver à se satisfaire lui-même de cela. Et quand il voit Étienne, alors le pauvre, il est complètement mis à mort, n'est-ce pas ? Donc c'est celui-là qu'il faut écouter, c'est celui qui a la puissance. Moïse n'a pas la puissance. La loi peut dire ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, mais ne peut pas donner la puissance à un être pécheur pour accomplir la volonté de Dieu. Mais le Fils le peut. Le Fils le peut. Moïse a dit, « Fais ceci et tu vivras. » Mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas pu faire. Et en quelque sorte, il y a des gens qui tirent une mauvaise comparaison là. Ils disent, mais en fait, parce que certains disent, si j'accomplis toutes les exigences de la loi, alors je serai sauvé. Et en réaction à ça, bien entendu, on dit, mais non, ça n'est pas possible. Et on ne peut pas être sauvé par la loi et tout ça. Mais sachant que si aujourd'hui on bénéficie de la paix de Dieu en Christ, c'est parce que la loi a été parfaitement respectée. Le salut vient par la loi dans un autre, n'est-ce pas? Faisons bien attention, faisons bien attention. Donc Moïse dit, fais ceci et tu vivras, mais moi je suis pécheur, je ne peux pas le faire. Et donc je ne peux pas vivre, et la loi me met à mort. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas pu le faire. Celui-ci, cet autre prophète, est plus grand. Il a toute mon affection, dit le Père. C'est l'autre prophète, celui qui est annoncé. Écoutez-le, écoutez-le. Et des années plus tard, Pierre a compris. Et si on va dans sa deuxième lettre, on voit ce qu'il dit. 2 Pierre, chapitre 1er. On peut commencer au verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et vous voyez tout de suite à quoi pense Pierre. Il revient à ce jour-là. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Vous voyez, Pierre, il est de nouveau sur la montagne dans sa tête là. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. J'étais là, dit Pierre. C'est quelque chose de réel. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'expérience de la transfiguration, une expérience extraordinaire, c'était remarquable. Pierre, toutes ces années plus tard, c'est comme s'il est de nouveau sur la montagne. Mais il y a mieux, il y a mieux. C'est-à-dire que cette parole de révélation de Dieu est meilleure, est plus sûre que l'expérience. Parce que les apôtres, ils étaient sur la montagne, mais ils n'ont rien compris. Et même en descendant de la montagne, on va voir, ils ne comprennent toujours rien. Mais la parole prophétique, c'est-à-dire la parole de Dieu qui révèle, elle explique toutes choses. Il y a mieux, ce sont les termes de la nouvelle alliance, une alliance nouvelle, une alliance meilleure, une alliance qui est signée dans le sang de l'agneau qu'il faut écouter et suivre. Et c'est dans cet agneau que repose le salut. Il n'est plus question de faire maintenant pour vivre, non. Maintenant, c'est croire l'autre prophète, celui que Dieu a envoyé, afin de vivre en nouveauté de vie, la vie que Dieu donne. Est-ce que votre salut dépend encore, même de façon la plus infime possible, de ce que vous faites pour trouver acceptation auprès de Dieu? Bien entendu, la réaction viscérale qu'on a, c'est non, non, non. Mais dans la réalité, est-ce que souvent nous ne vivons pas de cette manière? Ou bien, est-ce que j'écoute ce prophète ultime, ce dernier prophète, ce grand prophète? Voilà, écoutez-le, c'est l'ordre du Père. Mais maintenant, venons-en à un autre point, trois tentes. Je l'intitule trois tentes, et vous verrez pourquoi. Dans le désert, les Israélites n'arrivaient pas à supporter la voix de Dieu, cette voix qui est directe. Il leur faut un médiateur. Donc ils ont demandé un médiateur, car c'était impossible qu'ils supportent ces paroles directes de Dieu. Même ensuite, ils n'ont pas écouté les paroles du médiateur. Les choses ont-elles changé depuis? Pas du tout. Pas du tout. À l'époque de Jésus, il y avait un peuple privilégié parmi toutes les nations de la terre, dont les privilèges étaient énormes. Et on a tous plus ou moins écouté les messages sur Romains. Romains 9, par exemple. Vous voyez tous les privilèges que les Juifs avaient. C'est une nation qui était privilégiée parmi toutes les nations de la terre. Mais, nous dit la parole, les siens ne l'ont point reçu. Dans cette nation, le Fils de Dieu choisit 12 hommes privilégiés, des hommes qui vont passer le temps avec lui. Ils vivent avec lui au son continuel de ses paroles. Pendant 3 ans et demi, ils l'entendent parler pratiquement jour et nuit. Du sein de ce groupe spécial, privilégié, voilà 3 hommes qui sont privilégiés, des intimes, on pourrait dire, un petit cercle intime, une sorte de cercle restreint. Mais même ceux-là ne comprenaient rien. Même ceux-là ne comprenaient rien. Voici Pierre. Il est face à l'éclat insoutenable de la gloire du Fils qui, il est là, il propose de bâtir 3 abris, 3 tentes. Comme si Moïse et Élie étaient sur le même plan que Jésus. Voilà, on a 3 tentes. Non, pas du tout. Les évangélistes prennent bien soin de préciser que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Mais ce n'est pas tout. Avez-vous remarqué comment le récit de la transfiguration est entouré par les annonces par Jésus concernant ses souffrances et sa mort? Déjà, quelque temps avant, il a commencé, et c'est ce que lui a valu la reprise de Pierre. Mais Seigneur, loin, loin de cela, ces choses ne peuvent pas arriver. Non. Donc, Jésus commence à annoncer ce qui va se passer à Jérusalem. Et tout au long, le groupe privilégié des disciples ne comprend rien du tout. Rien du tout. Voyez la réaction de Pierre quand le Seigneur commence à parler du fait qu'il doit mourir à Jérusalem, doit souffrir. Mais à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Il se fait même le porte-parole de Satan lui-même. Regardez la réaction des 3 disciples intimes à la fin de notre passage que nous avons lu. Le Seigneur leur parle de ne pas dire, de ne pas parler de ce qui est arrivé jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. De quoi il parle? Ne pas dire on a compris, oui, oui. Mais jusqu'à quand? On ne sait pas. Ils n'ont rien compris du tout. Il leur parle du cœur du dessein de Dieu et eux, de quoi est-ce qu'ils discutent en chemin alors qu'ils marchent sur les routes de la Palestine accompagnés du Fils de Dieu lui-même? N'est-ce pas? Alors ils sont entre eux en train de causer comme ça. Et puis Jésus, quand il arrive dans la maison au terme du voyage, il leur dit, de quoi parliez-vous en chemin? Et eux, ils n'osent pas répondre parce qu'en chemin, ils parlaient, ils essayaient de déterminer quel était le plus grand parmi eux. Ils marchent avec le Fils de Dieu et ils sont occupés à savoir quel est le plus grand parmi eux. Ils sont de la même race que nous, n'est-ce pas?
Absolument, oui, oui.
Alors que lui, il leur dit, il est en train de leur montrer la croix, qui est vraiment l'objectif de tout le dessein de Dieu. Les disciples, les Juifs, ne comprenaient rien, bien que leurs Écritures étaient très claires, parce que le Messie qui est venu n'était pas le Messie qu'ils attendaient. La chair est chair, et elle ne peut qu'agir en tant que chair, elle ne peut que produire la chair. Une compréhension de la chair. Sur la montagne, face à la gloire éclatante du Fils de Dieu, à l'écoute de la voix même du Père, environnée d'une nuée qui montre la présence du Père, la chair reste chair. Seule l'œuvre de l'Esprit de Dieu sur la parole de Dieu peut vivifier l'esprit et ouvrir les yeux de l'âme. Et combien de fois on a dans les évangiles le fait que les disciples entendent les paroles de Christ, mais ils ne comprennent pas. Mais plus tard, quand il a été ressuscité, là, ils comprennent. Or, on sait que pendant les 40 jours où il est resté avant son ascension avec eux, il les a enseignés selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a repris toutes leurs anciennes Écritures et il a montré quel était le sens spirituel de ces choses. Et on arrive à la Pentecôte, quand la puissance vient, Pierre se lève et commence à parler de Joël, il commence à parler. Où est-ce qu'il a eu ça? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Parce que même dans cette situation absolument merveilleuse, hein, la gloire merveilleuse, comme il dit, non, la chair reste chair. Il faut l'œuvre de l'Esprit de Dieu sur la parole de Dieu pour ouvrir, vivifier l'esprit et ouvrir les yeux. Mes amis, est-ce qu'on recherche la connaissance?
Est-ce qu'on recherche l'orthodoxie? C'est une question qui se pose. Et un test, quand j'entends l'erreur, tant soit peu, petite erreur ou petite imprécision et tout ça, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis? Et souvent, je vais réagir comme les pharisiens. C'est-à-dire que je vais tomber comme une tonne de briques sur la pauvre personne qui a eu l'erreur de mettre un pas où il ne devait pas y en avoir, et tout cela, plutôt que d'essayer de comprendre que non, là, c'est la chair qui parle. C'est toujours une erreur, hein, ou tout au moins une imprécision. Hein. Mais on ne vient pas d'une manière qui est poussée par la chair. Non. Est-ce que je recherche simplement la connaissance, l'orthodoxie, la vérité, selon ce que je vois? Ou bien, est-ce que j'obéis à la voix de Dieu et est-ce que j'écoute cet autre prophète, celui-là qui lui-même pleurait sur Jérusalem, même sur la montagne, mes amis, dans cette situation hyper privilégiée, nous voyons l'échec de l'homme. Échec de l'homme à comprendre l'œuvre de Dieu. Échec de l'homme à faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui doit œuvrer. Que le Seigneur nous éclaire et qu'il nous donne de sentir quand la chair commence à prendre le contrôle. Combien de fois ça... Et c'est très subtil, n'est-ce pas? La chair est quand même poussée encore par celui qui se révèle comme un serpent. Viens pas en bloc comme ça. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses et nous verrons la prochaine fois comment nous pouvons surpasser notre chair. Amen.